De Marion Lourd. Bonjour Marion.
Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, des aveux et des excuses. Dernier rebondissement au procès Benalla, 18 mois de prison avec sursis requis contre l'ex chargé de mission de l'Élysée. Compte rendu d'audience dans ce journal. Éloigner les supporters du terrain et interdire les bouteilles. L'OGC Nice teste ce soir son arsenal anti-violence dans les stades de football. Dans cette édition aussi, nous irons en Haïti où des cadres américains présentent leurs excuses pour les mauvais traitements réservés aux migrants. Nous serons à Dubaï, journée de la France à l'Expo Universelle. Et puis nous partirons à la recherche de créatures de plus en plus rares et chères, vous verrez.
Et les invités de cette matinale, à 7h50, Karine, vous recevrez...
Le danseur et chorégraphe Mourad Merzouki, c'est une figure emblématique du mouvement hip-hop. Il est l'un des deux commissaires de la 20e édition ce soir de Nuit Blanche à Paris et dans le Grand Paris.
Et puis à 8h20, question ce matin à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
Inter.
Alexandre Benalla risque donc 18 mois de prison avec sursis.
Peine requise à l'encontre de l'ex chargé de mission de l'Élysée. Fin de procès hier pour Alexandre Benalla, accusé de violence dans une manifestation parisienne en mai 2018. Pendant 3 semaines, le trentenaire a plaidé le geste citoyen, contesté tout passage à tabac, affirmé son honnêteté avant de s'excuser. Vous avez suivi l'audience pour France Inter, Ariane Gressel.
Il est plus de 20h30, l'audience se termine. Comme le veut l'usage, la présidente invite les prévenus à dire un dernier mot s'ils le souhaitent. Les 3 premiers déclinent, Alexandre Benalla, lui, accepte. « Je m'en doutais », sourit Isabelle Prévost-Desprez. Le trentenaire se lance. « Il y a une phrase que vous avez prononcée, madame la présidente, que je trouve assez juste. Quand on lit mes auditions, on se demande « il se prend pour qui ?» Quand vous perdez tout, il vous reste la volonté de garder la tête haute. Cela peut passer pour de l'arrogance. Le prévenu le dit, je ne suis pas un ange, mais ajoute ne pas être un délinquant pour autant. Est-ce que j'ai eu une erreur de jugement le 1er mai? Sans aucun doute, il fallait rester à sa place. Alexandre Benalla semble ému, poursuit, j'ai un aveu à vous faire. Le téléphone manquant? Oui, j'ai menti, il n'a jamais été perdu. Enfin, il présente ses excuses à la 30aine de personnes qui se sont, dit-il, échouées dans le naufrage Benalla. Avant de partir, Alexandre Benalla se dirige vers les parties civiles, serre la main à 2 d'entre elles, poignée de main sans plus d'échanges. Il connaîtra la décision du tribunal le 5 novembre.
Objectif avril 2022, 4000 militants de La République En Marche font leur rentrée à Avignon ce week-end. Une vingtaine de ministres sont attendus. Au programme, un changement de nom, des débats de fond, mais pas d'Emmanuel Macron. Le président qui se rendra en revanche dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée d'ici la fin de l'année. Un an après les crues dévastatrices dans les Alpes-Maritimes, Emmanuel Macron promet de venir bientôt faire le point sur l'avancée des travaux. Les intempéries avaient tué 10 personnes et fait 8 disparus. Dans le journal de 8h, France Inter vous emmènera à Casterino, un hameau encore coupé du monde. Reportage à lire aussi sur notre site franceinter.fr. Les intempéries qui menacent aujourd'hui le nord-ouest du pays. Vigilance orange, pluie et inondations dans 5 départements. Le détail avec la météo sur Inter à la fin de ce journal.
Mettre un coup d'arrêt aux violences des supporters, c'est l'objectif des footballeurs de l'OGC Nice dès ce soir.
Match de 9e journée de Ligue 1 face à Brest, les Niçois visent le podium et retrouvent leur public après 2 rencontres à huis clos. Une sanction imposée suite aux incidents en marge de la rencontre avec l'OM. Cette fois, l'OGC a pris des mesures pour éviter de nouveaux heurts, Maxime Baquier.
Un premier test grandeur nature ce soir qui va se résumer à 2 changements. L'interdiction des bouteilles en plastique, à l'origine des incidents du 22 août dernier, remplacée par des gobelets en carton, et la rétractation des 4 premiers rangs en bas des virages. Opération menée par Niceco Stadium et son président Patrick Florence en charge de la gestion de l'Allianz Riviera.
Ça permet surtout d'avoir un vide au-dessus du premier rang avec les supporters qui va être d'à peu près 2,60 m au lieu d'avoir le premier rang de supporters au niveau du sol directement.
Et ainsi limiter les risques d'envahissement de terrain comme face à l'OM. Il faudra en revanche attendre encore un peu avant de voir les fameux filets anti-projection devant chaque virage. Installation prévue pour la réception de Montpellier le 7 novembre, date de réouverture de la Populaire Sud. Encore fermée pour 2 rencontres sur décision préfectorale. Des mesures acceptées avec fatalisme par les supporters du gym. De retour donc ce soir à l'Allianz Riviera.
Bah, ça peut éviter des incidents, tant mieux. Sans parler des supporters, il y a le club qui prend cher aussi.
À croire qu'on est comme des gosses en fait, on est obligé d'être puni pour finalement arrêter de faire les imbéciles dans les stades.
Des supporters rouges et noirs qui ont tout intérêt à se tenir à carreau alors que les aiglons déjà lourdement sanctionnés sportivement ont toujours au-dessus de la tête ce 2e point de pénalité avec sursis.
Maxime Baquier, France Bleu Azur. L'épidémie de Covid recule encore en France. Moins d'hospitalisations, moins de morts que la semaine dernière. La Guadeloupe entamera son déconfinement dans 6 jours, annonce la préfecture. Pendant ce temps, les antipasses poursuivent leur mouvement. 12e journée de manifestation avec une mobilisation mobilisation en baisse ces derniers week-ends. Autre rassemblement ce matin, celui à Paris pour dénoncer les violences obstétricales à 11h devant l'hôpital Tenon, là où exerce un spécialiste de l'endométriose soupçonné de viol et de violence sur ses patientes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, réclame un plan de prévention. Aux États-Unis, des femmes et des hommes marchent pour défendre le droit à l'avortement. En ligne de mire, la récente loi qui interdit l'IVG aux Texanes après 6 semaines de grossesse.
Et les États-Unis encore qui présentent leurs excuses officielles en Haïti.
Il y a 2 semaines, les images de migrants haïtiens refoulés par des policiers américains avaient choqué dans le monde entier. Depuis, le président des États-Unis s'est dit horrifié et de hauts cadres se sont même rendus à Port-au-Prince pour faire amende honorable. Reportage sur place, Amélie Baron.
Tout migrant mérite d'être traité avec dignité. Juan González a pesé ses mots et l'assistant spécial auprès du président Joe Biden a formellement présenté des excuses.
Nous avons tous vu les images du traitement des Haïtiens à notre frontière. Et je tiens à dire que c'était une injustice, c'était mal. Et je tiens à m'excuser auprès du peuple haïtien. Ce n'est pas une façon de se comporter pour nos agents à la frontière ou ceux du département de la sécurité intérieure.
Brian Nichols a mené cette délégation américaine à Port-au-Prince. Le fraîchement nommé secrétaire d'État adjoint aux Affaires des Amériques s'est entretenu avec le premier ministre haïtien et il a plaidé pour une immigration légale et régulée.
Les Haïtiens méritent des procédures de migration sûres et légales. Les flux irréguliers mettent en danger la vie des gens et nous avons besoin de coopérer pour éviter cela.
Pour l'heure, la gestion de la crise migratoire cause davantage de problèmes à Haïti. En moins de 2 semaines, les États-Unis ont expulsé plus de 6000 migrants, des personnes sans ressources qui reviennent dans un pays en proie à la violence des gangs qui commettent quotidiennement des enlèvements contre rançon. À Port-au-Prince, Amélie Baron pour France Inter.
Faute de chauffeurs, 200 militaires réquisitionnés dès lundi pour approvisionner les stations essence britanniques. Suite au Brexit, la main-d'œuvre trop rare met à sec un quart des pompes du Royaume. Le gouvernement va aussi accorder des milliers de visas de travail temporaires. À Dubaï, le ministre français des Affaires étrangères, un vol de la patrouille de France et un duplex avec l'astronaute Thomas Pesquet. Tout ça pour célébrer la journée de la France à l'exposition universelle. Paris a investi 26 millions d'euros pour cette présence à l'événement international. Et pour cause, reportage sur place, Cécile de Kervas-Doué.
Donc comme vous voyez, un bâtiment qui est entièrement en lumière, notamment la nuit.
L'inspiration à la vitesse de la lumière. Telle est la thématique du pavillon français qui veut mettre en valeur toutes ces entreprises innovantes. Car pour la première fois, le pavillon a été pensé pour le business, explique Franck Riester, le ministre chargé du commerce extérieur.
On a pensé justement ce pavillon France comme un endroit où beaucoup de chefs d'entreprise vont pouvoir rencontrer des délégations d'autres pays et aussi contribuer à ce que demain il puisse y avoir des affaires qui se créent, qui se nouent.
Et dans cet espace, une scénographie très bleutée.
Alors le pavillon France assume de jouer sur le cliché avec la gastronomie, l'encyclopédie ou le chantier de Notre-Dame, reconstitué grâce à une tablette interactive, une technologie française fondée par Édouard Lussan.
C'est un outil qui permet de s'immerger dans le passé et d'apprendre des choses d'une manière ludique. Donc là, on espère développer Eastovery à l'international.
Car pour cette start-up, comme pour les grands groupes du CAC 40 qui forment la trentaine de partenaires du pavillon, l'enjeu est de se positionner sur de nouveaux territoires, assure Eric Linquier, le commissaire du pavillon France.
On pouvait penser jusqu'à il y a un an ou deux que la grande puissance dominante à venir ici, c'était comme beaucoup d'endroits, la Chine. Le fait que il y ait ces contraintes sanitaires qui se soient maintenues fait qu'en fait, le grand enjeu, ça va être surtout l'Inde, les pays de l'ASEAN.
Sans compter les nombreux pays d'Afrique, dont la venue à l'exposition universelle de Dubaï est une première, intégralement financée par les Émirats Arabes Unis.
Et au chapitre éco, notre patrimoine a progressé l'an dernier, plus 6,4% pour les ménages grâce à la hausse des prix de l'immobilier. Et ça pourrait aussi compter dans le calcul de votre patrimoine, les cartes Pokémon, du nom de ces petites créatures japonaises si kawaii. Leur prix flambe parce qu'elles sont de plus en plus rares, en cause un véritable phénomène de spéculation. Résultat, Raphaël Kahn, les cartes viennent à manquer.
Les rayons de cartes sont quasiment vides au magasin Micromania des Jacobins au Mans depuis quelques mois. Les rares livraisons disparaissent vite, trop vite. Pour éviter ça, Arnold, le responsable, a même dû prendre des mesures.
Maintenant, on limite justement l'achat de cartes à un certain nombre. Parce qu'on avait des clients qui venaient et qui achetaient des lots de 36 paquets de cartes juste vraiment pour être à la recherche de ces petites cartes rares. Donc là, maintenant, le nombre de cartes vendues est limité.
Si les collectionneurs et la revente ont toujours existé, ces derniers mois, certains vidéastes sur Internet ont fait connaître ce marché.
Potentiellement 1350.
Okay. Et là, c'est les prix
Après, je vous dis en creux de marché.
Creux de marché, 1350. Ouais.
Parce que Dracolos, au mois de février, c'était 10 000 balles. Hein.
Oh.
Résultat, les paquets s'arrachent à la recherche de la carte rare qui vaudra parfois plusieurs milliers d'euros. À la librairie L'Intrépide, Bertrand Lacroix les reconnaît vite.
C'est vraiment des nouveaux acheteurs qui sont arrivés. À cause ou grâce, je ne sais pas, à ce phénomène de revente et de spéculation. C'est des personnes que je ne voyais pas avant, tout simplement. On sait qu'ils ne sont pas réellement là pour avoir la carte Pokémon, parce qu'ils sont contents d'avoir la carte Pokémon.
Il n'a plus de stock, mais presque tous les jours, des clients lui demandent des cartes Pokémon, des adultes, mais aussi des enfants, pour jouer dans la cour de récré.
Reportage France Bleu Maine, et je vous laisse avec nos valeurs en hausse sur Inter. Oui. Karine Becker, Eric Delvaux.
Les deux Pokémon de la matinale. J'ai un souvenir de Mega Raikaza, le maître des cieux, ça vous dit rien.
Mais... Ah, il ressemble à quoi?
Je ne sais plus, mais ça devait valoir une petite fortune. Je pense que je l'ai jeté à la poubelle, c'est un peu
aïe
bête.
Aïe.
Il est 7h40, le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
À un temps fortement pluvieux et venté dans le quart nord-ouest du pays, Jean-Michel Golinski.
Exactement, Eric, avec des rafales de 90 dans les terres, 110 sur les côtes. Et pour le moment, les départements des Pays de la Loire placés en vigilance orange, pluie, inondation. Les pluies et le vent qui abordent ce matin la Bretagne vont progresser en journée vers le nord de l'Aquitaine, le Limousin, le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec des pluies durables jusqu'à demain matin. Plus à l'est et au sud, maintien d'un temps ensoleillé, mais le vent de secteur sud va commencer à se lever cet après-midi, annonçant à partir de la nuit prochaine le début d'un épisode Sevenol.
Ce n'est que le début.
L'installation, je voulais dire.
Merci voilà. Jean-Michel Golinski, Météo France.